Voilà donc, sans vouloir redire ce qu'a dit le père de Blinière hier, mais comme je n'y étais pas, je vais peut-être quand même redire ce qu'il a dit, mais je veux tout de suite situer notre discours, celui que vous allez entendre maintenant, donc par rapport à la question de la foi, puisque parmi nous, un bon nombre, je le suppose, ont la foi catholique, peut-être certains n'ont pas encore reçu cette grâce, mais enfin, il est important, puisque nous allons examiner la question de notre capacité naturelle, par la simple raison, à connaître Dieu, il est important de savoir que, au niveau de la foi surnaturelle, il y a déjà une affirmation sur le même sujet. C'est un point qui se produit parfois, sur le même sujet, nous avons un enseignement qui vient d'une part de la foi, c'est-à-dire de la révélation de Dieu, cette connaissance par témoignage, et puis d'autre part, sur ce même sujet, nous avons un enseignement qui vient de notre propre découverte, de la capacité de notre intelligence à découvrir les choses. Et vous le savez, dans un tout autre domaine, c'était le lieu privilégié de coopération que le pape Pie XII indiquait dans le domaine temporel, dans le domaine politique, à savoir celui de la loi naturelle. La loi naturelle, ça c'est l'aspect de direction des mœurs, de la pratique, de découverte de ce qui est bien et mal, et à ce niveau-là, déjà, il y a possibilité de collaborer efficacement. Alors, il ne faut pas exagérer, c'est plus compliqué qu'on peut le penser, mais enfin, une possibilité de coopérer entre ceux qui n'ont pas la foi et puis ceux qui ont la foi. Alors, dans le domaine de la connaissance de Dieu, celui que nous abordons aujourd'hui, nous avons également un phénomène analogue, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, une petite mesure d'ailleurs, mais enfin, une mesure précise, il y a des connaissances sur Dieu, l'existence de Dieu, et puis certains, ce qu'on appelle des attributs, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu, il y a donc des connaissances sur Dieu que nous pouvons connaître par la raison, c'est le chemin que nous allons prendre dans quelques instants, mais déjà, pour ceux qui ont la foi, le bon Dieu a indiqué cela, c'est-à-dire le bon Dieu, dans sa révélation, nous a dit, eh bien oui, par votre simple raison, vous pouvez arriver à me connaître. Moi, je m'adresse à vous, je vous parle, et ceux qui ont la foi en eux reçoivent cette parole comme venant de Dieu, dans l'Écriture sainte et puis la tradition transmise par l'Église. Mais, entre autres, le bon Dieu nous dit, mais même tout seul, vous pouvez arriver à me connaître. Moins bien, il y a beaucoup de choses à mon sujet que tout seul, vous ne pouvez pas arriver à connaître, mais enfin, vous pouvez arriver à connaître quelque chose. Alors, cette situation, parfois, lorsque l'on s'adresse justement à quelqu'un qui n'a pas la foi, ou à un athée, ou à un agnostique, il nous dit, oui, mais donc, vous voyez, le jeu est faussé, parce que vous prétendez que vous allez me montrer que l'on peut connaître Dieu par la simple raison, mais comme vous y croyez déjà, votre attitude est entièrement faussée. Alors, pour ceux qui ont quelques souvenirs scolaires, je vous rappellerai que c'est un petit peu, toute comparaison, évidemment, vous le savez bien, est un peu boiteuse, donc celle-là sera boiteuse aussi, mais enfin, c'est un petit peu la situation où nous nous trouvons, je crois, si mon souvenir est bon, dans les classes de 6e ou 5e, on vous donne les problèmes à cette époque en disant « montrez que la surface du triangle est égale à, je ne sais pas quoi, à 24 mètres carrés ». On vous a donné évidemment quelques mesures. Donc on vous donne la solution, et il n'empêche que on est tout à fait capable de discerner ensuite, si vous, c'est-à-dire l'élève, arrivez à cette solution avec un raisonnement correct ou non. Et il y a des élèves qui sont parfois surpris parce qu'ils arrivent bien à faire tout un enchaînement qui arrive à 24, et le professeur leur dit non, c'est faux. Pourquoi ? Ben parce qu'il a vu qu'ici ou là, le raisonnement était faux. Donc, le fait de connaître la solution à l'avance n'enlève pas du tout qu'on puisse ou non établir un raisonnement, une démarche rationnelle. Et par conséquent, c'est vrai, nous connaissons, nous qui avons la foi, nous savons qu'il existe un raisonnement permettant de connaître Dieu, et nous avons même dans cette révélation divine, je vais vous lire les deux passages classiques, qui en parle, nous avons les indications sur le chemin à suivre, mais ça n'empêche pas que nous pouvons, par ailleurs, eh bien, faire l'exercice proprement rationnel ou proprement intellectuel, si vous voulez, qui nous permet de discerner que effectivement, ben, ça marche. Ça marche et on voit que ça marche. Alors donc d'abord, je vous rappelle, pour conclure cette entrée en matière, il y a deux grands passages dans l'Écriture sainte, un dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de la Sagesse, et un dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Épître de saint Paul aux Romains, donc deux passages qui affirment que l'être humain, par sa capacité intellectuelle, peut connaître l'existence de Dieu. Dans le livre de la Sagesse, il est dit, donc, c'est au chapitre 13, versets 5 et suivants, « Car c'est en partant de la grandeur et de la beauté des créatures que, par analogie, on contemple leur auteur. » Ah, voilà, bon, je ne lis pas plus, le passage est moralisant, il veut montrer que, justement, ceux qui ne sont pas arrivés à cette connaissance de Dieu ont quelques culpabilités, mais vous avez ici l'indication principale. Donc, en partant de la grandeur et de la beauté des créatures, par analogie, c'est dans le texte original, on peut contempler leur auteur, donc celui qui est à la source des créatures. Et puis, le texte donc très, très classique, très, très fort de saint Paul, dans l'Épître aux Romains, c'est dans le chapitre 1, là aussi, c'est à l'intérieur d'un discours moral, mais l'affirmation métaphysique est extrêmement forte. Donc, du haut du ciel, le courroux de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Notez au passage cette mention, vous voyez, l'attitude de ceux justement qui n'arrivent pas à Dieu sont caractérisés comme des hommes qui retiennent la vérité captive. Donc, si vous voulez, notre rapport à la vérité, et ça c'est une attitude morale évidemment, est extrêmement importante dans toutes les démarches, même rationnelles, qui nous conduisent jusqu'à la connaissance de Dieu. Car, alors voilà la suite de l'Épître aux Romains, « Car ce qui peut être connu de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Depuis la création du monde, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité apparaissent visibles à l'esprit par ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qui lui convient et ne lui ont point rendu grâce. » Donc voilà cette affirmation de saint Paul qui nous fait connaître ce caractère impératif au point de vue moral et possible au point de vue donc métaphysique, de connaître Dieu à partir de ses œuvres. Et ces textes ont été repris très souvent par l'Église. Je vous indique simplement donc au Concile Vatican I, qui est le grand concile au XIXe siècle, en 1869-70, qui a parlé de ces questions, de la foi et de la raison. Le Concile Vatican I, reprenant notamment cet épître de saint Paul, a affirmé donc que l'intelligence, la raison humaine, peut arriver à connaître Dieu. Le Concile ajoute même à le connaître avec certitude et à partir des choses qui ont été faites. Et il précise donc, le Concile précise, vous verrez, ça aura une importance tout à l'heure, peut connaître le vrai Dieu. Et puis d'autre part, donc il faut le rappeler aussi, puisque cette encyclique a une grande importance, venant après et pendant tout le drame du modernisme et du néo-modernisme, et bien Jean-Paul II, donc dans Fides et Ratio, citant le texte de saint Paul que je viens de vous lire, le présente ainsi. « Cet important texte paulinien affirme la capacité métaphysique de l'homme. » Donc, vous voyez, la capacité métaphysique de l'homme, c'est justement ce pouvoir qui se trouve dans notre intelligence, et je redis bien encore l'intelligence même de ceux qui n'ont pas la foi, de remonter jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à cette réalité suprême qui dépasse tout ce qui tombe sous notre connaissance purement sensible. Alors voilà, nous avons donc une indication et nous pouvons nous mettre en route maintenant avec sécurité pour ceux qui ont déjà la foi et disons avec, espérons-le, un a priori favorable pour ceux peut-être parmi nous qui n'ont pas encore la foi mais qui savent déjà que depuis des siècles et des siècles, eh bien des auteurs ont raisonné, ont cherché, ont travaillé pour suivre et jalonner le chemin que nous allons prendre. Alors, nous allons avancer pas à pas. Là, je dois présenter mes excuses à tout le monde, parce que lorsque l'on a affaire à un auditoire très varié, et il est difficile de tomber, de s'adapter exactement à tout le monde. Le résultat, comme vous le savez, c'est qu'on ne s'adapte à personne. Mais enfin, je vais essayer d'une part de ne pas introduire de notions sans les expliquer brièvement, mais je ne pourrai pas non plus les justifier d'une façon très profonde, c'est-à-dire je ferai appel à votre expérience commune, en précisant bien sûr que dans un véritable exposé métaphysique, c'est-à-dire celui-ci, j'espère qu'il est véritable, mais véritable, qui prendrait plusieurs heures, eh bien nous efforcerions de faire une justification plus détaillée des affirmations que nous allons donner. Cependant, j'espère que cela vous mettra au moins en appétit et que vous saurez, eh bien voilà, c'est ce point et ce point qu'il faut approfondir si je veux, moi-même, avec ma propre intelligence, c'est à cela que je vous invite évidemment, eh bien, prendre la mesure et arriver à reconnaître la force de l'argumentation. Alors, comment procède-t-on lorsque l'on veut manifester à l'intelligence humaine, à une intelligence humaine, l'existence de Dieu? Eh bien, malgré la manière de parler, c'est-à-dire manifester l'existence de Dieu, en fait, on ne commence pas du tout par parler de Dieu. Alors maintenant, donc, si vous voulez, je ne vous dis pas qu'il faut faire un doute méthodique, mais puisque nous nous plaçons au niveau de la raison, nous connaissons les choses qui tombent sous ce qu'on appelle notre connaissance sensible, c'est-à-dire ce que je touche, ce que je vois, ce que j'entends. Et à ce niveau-là, mais il y a des chaises, il y a des êtres humains, des garçons, des filles, et puis d'autres choses que je vois, que j'entrevois par l'extérieur, mais il n'y a pas Dieu. Donc, voilà, dans mon point de départ, il n'y a pas Dieu, et en réalisme, on ne donne pas de nom, on ne désigne pas par un nom une réalité dont on ne sait justement pas si elle est une réalité, si elle existe. Vous voyez, ce que l'on désigne par un nom, ce sont des choses qui frappent notre connaissance. Donc, c'est une manière de parler ici, parce que là aussi, bien, nous connaissons déjà la réponse à différents points de vue, mais comprenez bien que dans notre point de départ, il n'y a pas encore Dieu, il y a les choses que vous et moi, chacun d'entre nous, nous pouvons connaître. Et c'est en analysant ces choses, celles qui tombent dans, sous mon regard ordinaire, que nous allons nous rendre compte, eh bien, qu'elles ne suffisent pas. Ces choses que nous voyons prouvent, impliquent qu'il doit y en avoir d'autres qu'elles. Et évidemment, pour pouvoir faire ce passage, c'est-à-dire pour pouvoir dire que cette chose implique qu'il y en a d'autres et d'autres différentes, il va falloir que je repère dans les réalités qui tombent sous mon observation, que je repère certaines caractéristiques qui, justement, aux yeux de la raison, montreront qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Alors, je vais vous faire un petit intermède de découverte ou de retrouvailles, parce que vous l'avez déjà découvert depuis longtemps, mais de découverte du grand principe auquel je viens de faire référence en disant que telle chose, compte tenu de ses caractéristiques, en implique une autre. C'est une manière de faire référence à ce qu'on appelle le principe de causalité. Alors, l'important, évidemment, dans un débat proprement philosophique, avec des gens qui s'opposeraient à cette question, c'est évidemment autour du principe de causalité que se fera toute la lutte. Vous voyez, suivant que la portée réelle, profonde, métaphysique, ou non, que l'on reconnaît à ce principe. Donc, évidemment, il faudrait, si nous voulions être un petit peu attentifs, il faudrait consacrer une bonne heure, et même un peu plus, à la découverte du principe de causalité, à sa véritable formulation et au fait qu'il résiste à toutes les objections et à toutes les attaques qui sont fournies contre lui. Nous ne pourrons pas le faire, je vous donnerai quelques petites pistes, mais je vais essayer de vous montrer en tout cas que, avant d'être entré dans cette salle, vous aviez tous déjà découvert ce principe, vous l'avez toujours appliqué et vous en avez toujours reconnu la force, la valeur et la portée objective. Alors ce n'est pas que l'histoire que je vais vous raconter vous soit arrivée à chacun, mais il vous sera très facile d'en mettre une autre à la place et de voir que effectivement ça fonctionne, que votre intelligence a bien travaillé. Donc là c'est l'histoire de Pierre et de Paul, ce sont deux frères, Pierre et Paul existent, ce n'est pas les apôtres, ce sont deux frères qui vivaient dans le Midi. L'histoire, d'ailleurs, ça n'a aucune importance qu'ils vivent dans le Midi. Mais et il se trouve que, à vrai dire, les frères existent, mais je ne suis pas sûr que l'histoire leur soit arrivée. Mais c'est eux qui étaient mis en scène, donc c'est comme ça. Et donc Pierre, qui est l'aîné, bon, il doit bien avoir une douzaine d'années, il faisait une collection de timbres. Bon, ceux qui ne font pas de collection de timbres vont me dire, justement, ça ne marche pas. Mais enfin, faites autre chose. Tout le monde sait, enfin, je suppose que c'est qu'une collection de timbres. Alors, vous voyez, on a tous ces petits paquets de petites étiquettes, là, qu'on appelle des timbres. C'est posé sur la table. Il y en a des tas. Puis, on a une espèce de truc qui s'appelle un album. Et puis, il faut les mettre dans des endroits en essayant de grouper ça un petit peu intelligemment. Il y en a qui les groupent par couleur, par taille, mais ça, ce ne sont pas les vrais collectionneurs de timbres. Donc, les collectionneurs de timbres, ils ont d'autres critères. Toujours est-il que Pierre, qui a 12 ans et qui est un gentil garçon et qui fait une collection de timbres, il est en même temps très obéissant, donc il avait mis tous ces trucs. Puis, il y a sa maman qui l'appelle pour, je ne sais pas, faire la vaisselle, ou enfin, quelque chose comme ça. Donc, Pierre, très obéissant, s'en va, quitte sa chambre. Il croise son petit frère Paul, hein, qui a 10 ans, bon, 9 ans si vous voulez. Il croise son petit frère Paul dans le couloir en descendant. Et puis, tiens, il se rappelle, oui, tiens, c'est vrai, je m'étais disputé avec Paul hier, il faudra que je me réconcilie avec lui quand même. Et puis, bon, il continue à descendre, il va faire sa vaisselle. Il remonte. Il rentre dans sa chambre, et hop, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, ces beaux timbres, qui étaient tous déjà en jolies piles, bien mis en place, déjà bien ordonnés, ils sont tous éparpillés par terre. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Paul. C'est Paul avec lequel je m'étais disputé hier. Et donc, fou furieux, ça arrive même au bon garçon, il faut travailler pour essayer d'éliminer ce genre de réaction, mais enfin voilà, c'est comme ça, ça arrive, fou furieux, il quitte sa chambre pour aller trouver Paul et lui raconter l'affaire, et puis malgré tout, il se rappelle, parce que c'est un bon garçon, je vous l'ai dit, que tiens, il y a 10 minutes, je voulais me réconcilier avec lui, maintenant je veux aller recommencer à me disputer, alors il se dit, est-ce que c'est bien Paul? Et donc, il revient dans sa chambre, et il s'aperçoit que la fenêtre était ouverte. Et on est dans le Midi, vous savez, dans le Midi, il y a parfois du fort vent. Et donc, il se dit, après tout, tous ces timbres éparpillés par terre, c'est peut-être tout simplement le vent. Voilà. Et nous arrêtons l'histoire ici pour cette première étape. Nous y reviendrons, parce qu'il y a un deuxième épisode. Mais ce que nous constatons, c'est qu'à aucun moment, et j'espère que vous avez trouvé tout naturel l'attitude de Pierre, mais ce que nous constatons, c'est qu'à aucun moment, Pierre ne s'est dit, eh bien, les timbres, ils sont par terre, ils sont là, tout seuls. Voilà. Ils étaient là, maintenant ils sont là, ben, ça s'est fait tout seul. Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il a appliqué le principe de causalité. Parce que le principe de causalité se développe et est saisi par notre esprit dès que nous atteignons l'âge de raison. Et l'âge de raison, pas l'âge canonique de raison, pas les 7 ans, c'est beaucoup plus tôt. Vous voyez, nous découvrons ce principe de causalité à travers notre expérience. Notre expérience qui se déroule à deux points de vue. D'abord, nous avons l'expérience que certaines choses causent d'autres choses. Par exemple, en mettant la main dans le feu, ça c'est une bonne expérience à faire en bas âge, pas trop longtemps, mais voilà. Donc on met la main dans le feu et on apprend que le feu cause des brûlures. Voilà. Donc nous découvrons dans la réalité les causes et puis les effets, qu'il y a des causes et qu'il y a des effets. Et c'est pourquoi, à la différence de Dieu, je peux mettre un nom, le mot « cause », sur un certain type de réalité ou sur un certain type de rapport entre des réalités. Parce que là, vous voyez, le mot « cause » désigne quelque chose d'effectivement constaté. Et puis d'autre part, ça c'est la première étape qui montre que la notion de cause est bien fondée dans la réalité. Et puis d'autre part, alors là c'est un petit peu plus subtil, ça l'est même en fait beaucoup plus, bien que ça se réalise spontanément dans l'esprit, mais ayant la connaissance, donc cette connaissance vulgaire, commune, du fait qu'il y a des causes, c'est-à-dire une réalité qui produit un effet, qui fait que telle chose, tel mouvement, tel ordre de choses est, eh bien, je finis par réfléchir en disant, donc, ma brûlure, par exemple, ma main ne me brûle pas par elle-même. Par elle-même, ma main, je n'ai pas cette sensation de brûlure, mais j'ai cette sensation de brûlure en vertu d'une cause. Vous voyez ? Donc, par elle-même, ma main n'est pas brûlante dans l'état ordinaire, et je dirais donc que par soi, ma main ne me brûle pas, mais par un autre, par le feu ou par le briquet, par l'allumette, ma main me brûle. Et donc, arrive à mon esprit, sans utiliser forcément tous ces termes, ça c'est quand je me mets à faire de la philosophie que j'utilise tous ces termes, mais arrive à mon esprit, vous voyez, d'une façon très proche après la découverte du fait qu'il y a des causes, un exercice de causalité, arrive à mon esprit la notion de ce qui est par soi et de ce qui est par un autre. Alors ces deux notions se retrouveront partout. Nous pouvons maintenant analyser ce qu'a fait Pierre avec ses timbres. Pierre, qui connaît un petit peu les timbres, parce que c'est un collectionneur, comme je l'avais dit, donc il sait un petit peu, il les a manipulés dans tous les sens, eh bien, il sait que les timbres postes, par eux-mêmes, ne bougent pas. Donc, par soi, un timbre poste ne bouge pas. Et par conséquent, puisqu'il constate qu'ils ont bougé, il en a conclu qu'ils avaient, qu'un autre était intervenu. Mais le fait de les retrouver par terre, en réalité, ne lui donnait pas beaucoup d'indications sur qui était ou qu'était cet autre. Et c'est pourquoi il a pu osciller, accuser Paul, accuser le vent, et en fait, c'était ni Paul ni le vent, c'était le chat. Mais bon, ça, il ne s'en est pas aperçu, je vous le dis à vous, en cachette, il ne faudra pas lui répéter, il est encore convaincu que c'était le vent. Mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez, la question, c'est que, dans cette première étape, je saisis, et déjà Pierre, vous voyez, à 12 ans, il a saisi cette application du principe de causalité dans une forme particularisée, ce qui ne bouge pas par soi-même, eh bien si ça bouge par un autre. Et le principe métaphysique, lui, est plus simple. Il ne dit pas bouge, il ne dit pas quoi que ce soit comme cela, il dit tout simplement ce qui n'est pas par soi est par un autre. Voilà le principe pris dans toute sa rigueur métaphysique et qui doit apparaître à l'évidence à un esprit qui a saisi tout simplement la réalité de l'être. Ce qui est, ou bien est par soi, ou bien est par un autre. Est par soi au niveau, justement, de ce qu'il détermine. Alors, on peut l'analyser à de nombreux niveaux. J'ai pris ma main tout à l'heure. Ma main, ben, par soi, c'est-à-dire au niveau vulgaire, je dirais, elle a une certaine température, ça lui appartient par soi. Ce n'est pas un par soi absolu, bien entendu. Parce que, justement, si la température de ma main était un par soi absolu, ma main ne pourrait ni se refroidir, ni se réchauffer. Mais c'est un par soi dans l'ordre ordinaire. Ce qui fait que si je constate un changement de température dans ma main, eh bien je cherche un changement dans les causes. Tandis que si je me sens à la température ordinaire, je me dis, ben voilà le climat, ce qu'il doit être habituellement. Donc vous voyez bien que appliqué à un niveau particularisé, le principe métaphysique de causalité ne me dit pas tout. Mais si, justement, je veux entrer en métaphysique, j'abandonne ces particularisations, je ne regarde pas la chaleur de la main, le mouvement d'un timbre, mais je me fixe au niveau de l'être lui-même. Et c'est vraiment cette affirmation, ce qui est, ou plus exactement, ce qui n'est pas par soi, est par un autre. Voilà. Et alors, ce principe métaphysique de causalité, nous allons voir que, donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple, nous allons voir qu'il nous permet effectivement de saisir toutes les réalités qui tombent sous notre expérience et de sortir de leur domaine, de sortir de leur cercle. Pourquoi ? Parce que toutes les réalités qui tombent sous notre expérience, et puis nous ferons même l'hypothèse, une hypothèse envisageant celle qui ne tomberait pas sous notre expérience, toutes ces réalités possèdent telle ou telle caractéristique très générale, je vous en donnerai deux simplement, telle caractéristique très, très générale, qui justement me permettent d'affirmer qu'elles ne sont pas par elles-mêmes. Qu'elle n'existe pas, donc en prenant existence au sens fort de, donc de l'être, ce qui est, qu'elle n'existe pas par elle-même. Quelles sont ces deux caractéristiques? Ce sont d'une part, elles se recoupent en fait, la première est une approximation de la seconde, ce sont d'une part le changement, et d'autre part, purement et simplement, ce que l'on appelle la contingence, mais la contingence qui justement va nous apparaître dans les formes les plus profondes de changement. Donc tout d'abord, en ce qui concerne le changement, ça vaut surtout évidemment pour notre monde sensible. La question reste ouverte pour des réalités qui ne sont pas Dieu, mais qui dépasseraient notre connaissance sensible, je pense en particulier aux anges, que nous qualifions comme substance, donc, spirituel, mais enfin, comme nous n'en avons pas l'expérience immédiate, nous ne les faisons pas intervenir en philosophie. Donc, si l'on analyse les réalités de notre expérience sensible, nous voyons qu'elles sont toutes soumises à différentes formes de changement. Et ici, sans tomber dans le scientisme, et sans vouloir lancer de polémiques sur la vérité plus ou moins profonde des théories scientifiques, mais enfin, en admettant en gros, ce que l'on admet communément aujourd'hui, tout en étant prêt à changer d'avis au point de vue des théories scientifiques, si d'autres apparaissent plus raisonnables plus tard, parce que dans le domaine des théories scientifiques, les changements sont fréquents, comme vous le savez, eh bien, nous voyons de plus en plus que, non seulement au petit niveau de notre planète, enfin de ce qui est sur notre planète, mais au niveau de l'ensemble des planètes, des étoiles, du cosmos, eh bien, tout est soumis à un changement permanent, qui parfois n'est pas visible parce qu'il est très très lent, très très lent pour nous. Mais enfin, il y a du changement pour nous, partout. C'est une caractéristique de ce monde sensible dans lequel nous nous trouvons. Et nous-mêmes, nous avons le souvenir d'avoir été petits, puis d'avoir grandi, et puis il y a toutes sortes d'autres changements qui se produisent en nous. Alors là, donc, j'abrège, je vous donne simplement l'indication, je ne prolonge pas cette voie, ça serait la première preuve de saint Thomas, qu'on dit justement par le changement, pour remonter jusqu'à Dieu à partir de ce point de départ. Remonter jusqu'à Dieu, c'est-à-dire à l'affirmation, justement, en l'occurrence, d'un être qui n'est pas soumis au changement, il faut évidemment faire un petit effort d'analyse philosophique au niveau du changement. Donc là, je ne le ferai pas, je vous indique simplement les termes, mais en philosophie, c'est-à-dire toujours au niveau de la simple raison, on analyse le changement en déterminant que dans toute réalité qui est soumise à un changement, quelle que soit sa nature, que ce soit simplement un changement local ou que ce soit une transformation tout à fait profonde, comme un être vivant qui meurt ou l'inverse, une réalité non vivante qui est agrégée à un vivant, eh bien il y a toujours deux morceaux, si j'ose dire, le mot morceau est tout à fait inadapté, mais il y a toujours deux parties dans un être qui change, un aspect sous lequel cet être est encore à son point de départ, si vous voulez, là, ce que je vous dis n'est pas tout à fait exact, c'est un survol imaginatif. Donc, un aspect qui est encore au point de départ, et on dit que la réalité est en puissance, et puis un aspect où elle est en route vers l'arrivée. Et on dit pour autant qu'elle est en acte, mais en acte imparfait. C'est cela le mouvement. Le mouvement, donc, c'est Aristote a trouvé cette formule, mais qui est l'analyse précise de ce que j'essaye de vous suggérer ici, en disant que le mouvement ou le changement, quel qu'il soit, est l'acte de la puissance en tant qu'elle est en puissance. Je vois quelques anciens élèves de philosophie qui sourient, mais il n'y a pas une grande importance à aller plus loin dans ce domaine. Simplement, vous voyez, s'il n'y avait pas cet aspect de l'acte imparfait, donc du changement lui-même, eh bien la réalité serait immobile. Vous voyez, prenez une cerise qui est pas encore mûre, elle est verte. Et puis à la fin, elle sera rouge. Et entre les deux, ben, vous ne voyez pas le changement, parce que c'est assez lent, mais enfin, vous le voyez si vous venez un petit peu tous les jours. Donc, la cerise a une transformation au niveau de sa couleur. Il y a des transformations beaucoup plus profondes, bien sûr, mais au niveau de sa couleur. Mais s'il n'y avait aucune transformation, s'il n'y avait pas cet aspect d'une actualité, mais encore imparfaite par rapport au rouge, eh bien, elle resterait purement et simplement verte. Alors, je dis que ma cerise verte est en puissance à être rouge. Et pendant qu'elle est en train de changer, il y a un peu plus que la puissance. Et donc, voilà ces deux réalités qui font que n'importe quelle réalité soumise au changement est composée. Voilà. Et j'ajoute donc, on finirait le raisonnement pour remonter jusqu'à Dieu, voyez, en disant que précisément, puisqu'il y a cette composition de deux éléments qui sont réellement divers, être en puissance d'une part et être en cours d'actuation d'autre part, eh bien cette réunion, cette unité, parce que dans l'être qui change, j'ai l'unité entre les deux aspects, cette unité des deux aspects a besoin d'une cause. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas par soi. Elle n'est pas par soi parce que justement, ce sont deux éléments, le changement lui-même et l'être en puissance, qui par eux-mêmes sont divers. Ils sont divers, la preuve en est que ma cerise peut parfaitement rester verte. Donc, ce sont deux choses qui de soi sont distinctes, sont diverses même. Et donc, ce qui, par soi, n'est pas un, ne peut être un, c'est-à-dire le changement ne peut véritablement avoir lieu, qu'en vertu d'un autre. Et remarquez bien, ça c'est un point que l'on retrouvera sous une forme ou sous une autre dans n'importe laquelle des preuves, remarquez bien que cette affaire ne me dit pas que tout doit avoir une cause. Cette affaire me dit simplement que tout être qui change, qui est soumis, qui subit un véritable changement, doit avoir une cause distincte de lui-même. Et donc, parce que là c'est l'objection bateau que ne font pas les philosophes évidemment, mais que l'on trouve au café du commerce, de dire oui mais alors, et Dieu, quelle est la cause de son changement? Eh bien justement, la réalité de départ, le fait des êtres changeants de notre monde, et l'argumentation dont je viens de vous indiquer les grands jalons, nous montrent qu'il existe un être d'un autre type, c'est-à-dire un être qui n'est pas soumis au changement. Voilà cette double affirmation. J'arrive à l'affirmation d'un être autre que ceux de mon monde, tout au moins de tous ceux qui sont soumis au changement, et d'un être qui, en aucune façon, n'est soumis au changement. Et, ajouterait saint Thomas, eh bien cet être, c'est lui que nous nommons Dieu. Mais voyez que nous ne sommes pas partis de l'affirmation même nominale de Dieu, nous sommes partis de l'analyse des réalités qui tombent sous notre observation, et à partir de là, nous avons conclu, par une démarche purement rationnelle, qu'il existe nécessairement une réalité d'un autre type. L'autre type, ici, étant caractérisé par le fait de ne pas être soumis au changement, et c'est pour cela, donc, si on adopte le vocabulaire déterminé par Aristote, donc, qui a été reçu par la suite parce qu'il est très adapté, donc c'est comme cela que l'on dira que Dieu est découvert comme étant l'acte pur, tandis que toutes les réalités qui sont soumises au changement, eh bien nous les observons comme étant mélangées d'actes et de puissance. Voilà, alors donc ça c'est une première démarche, j'ai voulu vous la faire parce que c'est par rapport au changement que l'on voit mieux, même au niveau de la raison, j'allais dire, l'insertion de Dieu dans notre vie. Et ça, j'en aurai besoin tout à l'heure pour donner un petit coup de patte à Pascal, homme célèbre et fort recommandable à plus d'un égard d'ailleurs, qui écrit très bien le français, ne serait-ce que pour cela, mais enfin qui parfois a des petits écarts. Donc voilà, nous découvrons Dieu à la source comme cause du changement. Et puis il y a une approche beaucoup plus, on peut dire, plus générale, mais qui recoupe quand même celle que nous venons de voir dans sa première étape, c'est celle tout simplement de l'être contingent. Mais justement, elle recoupe la première étape parce que la description des êtres contingents se fonde, pour en parler d'une façon réaliste, se fonde sur l'observation de leur corruptibilité, du fait que ces êtres peuvent être réduits et peuvent être détruits. Alors, donnons la définition d'abord, définition dont vous allez voir qu'elle vient tout de suite de l'observation du réel. On appelle être contingent, ça s'oppose à être nécessaire, un être qui peut être ou n'être pas. Et comment je sais qu'un être peut être ou n'être pas? Mais il y a deux voies. Il y aurait la voie, mais justement, ça c'est plutôt la voie de Dieu, donc je ne peux pas la prendre, d'abord parce que je ne suis pas Dieu, et ensuite parce que je ne sais pas encore que Dieu existe. Donc ça serait la voie de connaître par l'intérieur, par son essence, la réalité. Si je connais l'essence d'une chose, eh bien évidemment, si je connais l'essence en profondeur, totalement d'une chose, je sais si cette essence implique ou non l'existence. Si cette essence implique l'existence, alors cet être ne peut pas ne pas être. Seulement, ça suppose que je connaisse l'essence. Donc ça, Dieu, oui, Dieu a cette connaissance en lui, mais moi, je ne l'ai pas. Alors, il y a une voie, une voie un petit peu détournée, c'est la voie a posteriori, par l'observation. Je peux savoir qu'un être qui existe, donc je parle de quelque chose qui tombe sous mon expérience, qui existe, donc qui est. Donc puisqu'il est, il peut être. Et la question, c'est de savoir, mais est-ce qu'il peut aussi ne pas être? Comment je fais pour savoir s'il ne peut ne pas être? Mais il faut que je constate qu'effectivement, à tel ou tel moment, il n'existe pas. Et donc, je peux le faire pour les êtres dont j'observe la destruction, tous les êtres dont j'observe à un moment ou à un autre la destruction, eh bien j'en conclus que c'est un être contingent, puisque d'une part il peut être puisque je l'ai vu exister, et que d'autre part il peut ne pas être puisque j'ai vu qu'il a été soumis à la destruction. Donc j'ai typiquement là la réalisation, et la réalisation, vous voyez, réelle, objective, c'est pas une définition forgée, je le constate, d'un être qui peut être ou n'être pas. Et puis il y a évidemment l'autre cas, c'est les êtres dont je peux observer la venue au monde, même si je ne vois pas l'en